Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui avec la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons parcourir aujourd'hui le don de science. Un des sept dons du Saint-Esprit, il nous reste à voir le don de science et celui de la sagesse. Trois frères contemplatifs, don d'intelligence, don de science et don de sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce don de science? Rappelons-nous que le Saint-Esprit nous est donné, que d'abord le premier à vivre pleinement de l'Esprit-Saint, de la plénitude de l'Esprit-Saint, bien sûr c'est Jésus dans son humanité. Vivant pleinement de l'Esprit-Saint et de tous les dons, il déverse, il répand son Esprit. Première petite créature à vivre pleinement du Saint-Esprit dans sa plénitude avec tous les dons, c'est Marie, bien sûr, l'Immaculée. Et puis, nous, c'est un peu parti de touche, et puis voilà que la Pentecôte arrive, et il y a le fleuve, il y a le feu, il y a les tremblements, il y a ce renouvellement profond. Et voilà que le Saint-Esprit nous est donné avec les sept dons, qui sont connexes. On ne peut pas dire que « Ah, moi, c'est le don de piété que j'ai, et toi, t'as eu quoi, toi ?»« Ah ben, moi, c'est le don de crainte. Ah, zut !» Non, non, nous les avons tous, sauf qu'ils agissent de manière divine, à la différence des vertus humaines que nous provoquons nous-mêmes. Je choisis d'être, par exemple, tempérant. Je pose un acte de vertu de tempérance. Et plus je pose des actes de tempérance, je deviens tempérant. C'est moi qui le fais, c'est moi qui le choisis, c'est moi qui deviens ce que je fais comme acte. Je deviens vertueux. Les dons du Saint-Esprit, ce sont des motions, des inspirations, des souffles qui soufflent dans la voile si nous sommes évidemment bien disposés. Alors voilà, on va voir ça un petit peu. Ces dons du Saint-Esprit qui nous font marcher en régime surnaturel. Alors, ce don de science, don contemplatif, va perfectionner en nous l'exercice de la foi, nous donnant de discerner avec plus d'exactitude ce qu'il faut croire de ce qu'il ne faut pas croire, donnant ainsi à notre foi une certitude plus grande. Nous avons déjà la certitude, oui, parce que la foi est une certitude, ce n'est pas une opinion. On ne fait pas de débat d'opinion sur le contenu de la foi, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans une certitude. Par contre, on peut échanger, bien sûr, on peut réfléchir, on peut étudier, on peut scruter, approfondir, bien sûr. Mais on part de ce qui est révélé, et ce qui est révélé nous est offert à notre foi pour que nous adhérions avec certitude. On ne se trompe pas quand on croit de vertu théologale. C'est pourquoi le doute est un péché contre la foi. Ah mon père, c'est normal de douter. Ben voyons, n'oubliez pas ça dans votre sacoche quand vous irez vous confesser, tiens. Ah bon, mais je crois que c'était normal de douter, moi. Non, non, c'est un péché contre la foi. Ne doute pas que Dieu est ton Père. Ne doute pas que Jésus est ton Sauveur, ton Rédempteur. Ne doute pas que le Saint-Esprit te vivifie. Ne doute pas de cette présence de la Sainte Trinité. On ne te demande pas d'être un pro de la théologie. On te demande juste d'être un saint. C'est pas pareil. Alors, le don de science vient perfectionner notre foi pour que la certitude soit plus grande. Autrement dit, que nous soyons affermis. Voilà, je crois, Seigneur. C'est-à-dire que je ne tergiverse plus. Il n'y a plus de « oui, mais ». Ouais, mais moi, je sais bien que Jésus est présent dans le Saint-Sacrement, mais quand même. Non, non, il n'y a plus de « oui, mais quand même ». Il est présent dans le très Saint-Sacrement de l'autel. Point. Merci, don de science, de nous affermir dans notre foi. Qu'il n'y ait plus d'hésitation. Qu'on ne perde plus notre temps à hésiter. Vous voyez, les hésitations. Non. De plus, il nous communique la manière dont Dieu lui-même, en son amour, juge des créatures. Ah bon ? De leur valeur propre, de leur relation mutuelle et de leurs liens. C'est la science des saints. Il dépend d'une motion de l'Esprit-Saint à la fois lumineuse et aimante et qui fait regarder l'univers non pas comme les philosophes ou les savants, mais dans la lumière du Saint-Esprit, sous son souffle d'amour. Alors là, c'est très important. Parce que l'univers vu selon les philosophes, il y a différents courants philosophiques. Alors, quand vous êtes dans les mauvaises écoles, on vous apprend, vous êtes étudiant, jeune étudiant en philo, et on vous dit, ben, on va vous apprendre ce que pensent les uns les autres. Mais très peu vous font cheminer dans la réflexion. Là, vous arrivez aux examens, il faut répéter ce que le prof a dit, et répéter ce que Kant a dit, ce que Descartes a dit, et ce que un tel a dit. Ah, voilà, vous avez bien répété. Bon perroquet, allez, 15 sur 20. Mais votre réflexion personnelle, pensez quoi à vous ? Le philosophe, à partir de l'expérience qu'il a de l'univers, dans tous les domaines d'activité qu'il a, l'expérience, c'est le point de départ, l'expérience sensible de son toucher, de sa vue, de ce qu'il vit dans son amour, dans sa connaissance sensible. Et puis, il y a différents domaines de philosophie. Et puis, avec la question ultime, il y a la métaphysique, et puis tout ce qui touche l'être. Et puis, la question ultime de l'origine de tout ce qui est. Non seulement l'origine, donc le principe, la cause, mais en vue de quoi la cause finale ? En vue de quoi cet univers que j'expérimente par ma vue, que j'expérimente par mon toucher, que j'expérimente par mon odorat, hein ? Même quand le nez est un peu bouché. Bon. En vue de quoi tout ça ? Donc la philosophie est très importante, si elle est réaliste. C'est-à-dire que si elle n'est pas polluée par les idéologies. Si elle essaye de lutter contre ça en restant collée au plus grand réalisme possible. Pas facile, pas facile. Donc la démarche de la philosophie, qui est la recherche de l'amour, de la sagesse, comme dit son nom, c'est un domaine de connaissance spécifique, qui est magnifique. Autre domaine de connaissance, celui des savants, des scientifiques, et on est un peu dedans hein, en ce moment. On est tous devenus scientifiques là, depuis un an et demi, ça y est. Hein, on a tous des diplômes en sciences maintenant. Jean-Paul II nous disait, dans une catéchèse justement sur le don de science, en 2000, je ne sais plus quelle année, bon. Nous savons que l'homme contemporain, en raison du développement des sciences, est particulièrement exposé à la tentation de donner une interprétation naturaliste du monde. Devant la richesse multiforme des choses, devant leur complexité, variété et beauté, il court le risque de les absolutiser et de qui les diviniser, jusqu'à en faire le but suprême de sa propre vie. Par exemple, le risque idéologique de l'écologie. Alors c'est bien l'écologie, c'est bien de prendre soin de la planète. Mais attention de ne pas tomber dans le travers, le gros piège, qui serait de dire ce n'est plus l'homme qui est à sauver, mais la planète. Et de passer à côté de l'homme. Et de quitter l'anthropocentrisme, comme on dit, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est au cœur, au centre de tout l'univers, confère livre de la Genèse. Celui qui arrive en dernier dans un ordre génétique. Mais s'il arrive en dernier, c'est qu'il est premier dans l'intention. Ah, premier dans l'intention. Quand Dieu crée tout l'univers, c'est pour qui? Ah, c'est pour l'homme. Ah, ça, c'est la révélation divine qui nous dit. Ah, c'est pour Adam et Ève. C'est pour l'être humain. La famille humaine, c'est pour toi. Et comme l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est pour le Christ. Alors, si on oublie, si on décale l'homme de sa place et qu'on met la planète à sa place, ça s'appelle une idolâtrie. Parce que ce n'est plus ordonné. Tandis que si on met au cœur de l'écologie l'être humain, l'homme, alors là, la planète prend son sens. Bon. Jean-Paul II, déjà, voyait ça un petit peu, hein, comme risque. C'est toujours un problème lorsqu'on absolutise. Quand on absolutise, on quitte l'ordre, l'harmonie. On quitte la place ordonnée de chaque chose. Pourquoi justement? Parce que on ne relie plus les choses à leur principe premier. Qu'est Dieu, de qui vient toute chose, vers qui va toute chose. Ceci advient, nous dit Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, surtout au sujet des richesses, des plaisirs, du pouvoir qui justement peuvent traiter des choses matérielles. Ce sont les principales idoles devant lesquelles trop souvent le monde se prosterne. Est-ce qu'on ne peut pas dire, frères et sœurs, que la santé a pris une place démesurée quand même. Avant, on apprenait à vivre avec la maladie, maintenant, il ne faut plus qu'il y ait maladie. Ah, ah bon? Ah oui, 0-0-0. L'énergie, le business, les idéologies qui accompagnent cette crise sanitaire, c'est assez impressionnant de voir ça quand même. Complètement disproportionné, démesuré, c'est désordonné. Bien sûr que la santé, c'est important. Mais quand c'est absolutisé et quand ça vient conditionner la manière de vivre des êtres humains, c'est désordonné. Ça ne va plus. Non. Alors, quand c'est Big Pharma qui s'allie à Big Tech, et à la politique, alors là, ça devient... Il faut juste repérer. Nous sommes dans le don de science. Don de science, attention, c'est le frère du don d'intelligence. De repérer comme je disais tout à l'heure, regarder l'univers non pas comme les philosophes ou les savants, les sachants, les scientifiques, même si évidemment chaque science a son apport spécifique et c'est très important. Mais l'homme est plus important que sa connaissance. L'homme est plus important que sa science. Il a beau être un génie dans son domaine spécifique de connaissance, il est plus que sa connaissance. Par ce don de science, nous pouvons donc juger et apprécier la créature en sa profondeur divine. Saisir ce qui en elle peut nous parler de Dieu, nous porter vers lui, être pour nous un indice, un vestige de son passage, un instrument nous permettant de le louer et de le faire aimer. Dieu devant qui tout est mis à nu, qui scrute les reins et les cœurs de ses créatures, permet à notre âme, divinisée par son amour, de participer dès ici-bas dans la foi a son pouvoir de pénétrer ces créatures, de les considérer dans leur nudité originelle. Ce qu'il y a de très grand dans le don de science, c'est que on est mis à nu. Voilà, on ne peut pas tricher. Le Saint-Esprit ne tergiverse pas. Il nous fait à la fois. Il nous donne un éclairage très pointu sur la merveille que nous sommes, selon Dieu, pas selon les hommes. Ah non, pas selon les hommes, c'est trop limité. Sauf si c'est tel homme, telle femme nous regarde selon Dieu. Alors là, oui, bravo. Là, ça va. Mais si on est regardé en dehors du regard de Dieu, c'est un peu court, jeune homme. Et à la fois, justement, dans cette nudité, avec notre misère. En même temps que la beauté des créatures est expérimentée, leur néant et leur fragilité nous apparaissent. Nous mesurons le degré de déchéance, de faiblesse, dans lequel le péché nous a plongés. Et ses conséquences. Et nous discernons dans le don de science, avec une grande acuité, c'est sa spécificité au don de science, combien la noblesse des créatures, notre propre noblesse, est enfouie sous une gangue de fausses petitesses et de fausses grandeur. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'auto-élève, ah oui, je me suis fait un peu plus grand que je suis. Ah, Seigneur, merci dans ta bonté, tu m'as fait prendre deux, trois murs, un panneau de signalisation, un tapis, et deux, trois bricoles. J'ai quelques sparadraps, mais au moins, je considère un peu plus que sans toi, ma vie tombe en ruine. C'est bien. Parce que tu étais un peu dans tes fausses grandeurs, dans ta valorisation, dans ton auto-valorisation. Alors, Dieu, dans sa bonté, il me dit, mais non. Tu es beaucoup plus beau que tu ne le penses. Mais là, tu es avec ta petite beauté esthétique, mondaine. Mais en vérité, tu es beaucoup plus beau, selon Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous rend beaux. Et puis les fausses petitesses. Oh, les fausses petitesses. Les fausses humilités. Quand on longe les murs. Quand on fait... Surtout ne prenez pas cas de moi. Hein. Je n'existe pas. Hein. Je vous le signale. Hein. J'envoie un mail à tout le monde pour dire que je n'existe pas. Ah, d'accord. Bon. Ce don de science nous donne une connaissance expérimentale de la vanité, de l'inutilité absolue, du néant de tout ce qui n'est pas Dieu. Extraordinaire. Il nous fait toucher combien tout ce qui n'est pas entièrement dans la volonté de Dieu, tout ce qui s'oppose à cette volonté divine, tout ce qui ne provient que de la créature, eh ben, c'est juste rien. Toutes nos activités désordonnées, pécamineuses, d'un point de vue de l'amour divin, du point de vue du Saint-Esprit, du point de vue de la volonté de Dieu, c'est juste rien. Et c'est une grâce, frères et sœurs, que d'expérimenter sous la motion du don de science la vanité. Alors, pas une vanité qui nous déprime, vous voyez. Alors, allons faire un petit tour dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, les deux premiers chapitres, tout le livre est magnifique, hein, bien sûr. Faut prendre le temps de tout lire dans ce livre, parce que enfin, en général, on prend pas le temps, mais bon, allez. Là, on va se lancer, je vais pas tout lire, hein, c'est un peu long quand même, mais peut-être le premier, voire le deuxième chapitre. Allez, on se lance, c'est la parole de Dieu. Et puis, pour vous faire comprendre que l'Ecclésiaste, Qohélète, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit Qohélète. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil? Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son lieu et c'est là qu'il se lève. Le vent part au midi, tourne au nord, il tourne, tourne et va, et sur son parcours retourne le vent. Tous les fleuves coulent vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers l'endroit où coulent les fleuves, c'est par là qu'ils continueront de couler. Toute parole est lassante. Personne ne peut dire que l'œil n'est pas rassasié de voir, et l'oreille saturée par ce qu'elle a entendu. Ce qui fut, cela sera. Ce qui s'est fait se refera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'il y ait quelque chose dont on dise, tiens, voilà du nouveau. Cela fut dans les siècles qui nous ont précédés. Il n'y a pas de souvenir d'autrefois, et même pour ceux des temps futurs, il n'y aura d'eux aucun souvenir auprès de ceux qui les suivront. Moi, Qohélète, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai mis tout mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une mauvaise besogne que Dieu a donnée aux enfants des hommes pour qu'ils s'y emploient. J'ai regardé toutes les œuvres qui se font sous le soleil. Eh bien, tout est vanité et poursuite de vent. Extraordinaire. Etc., etc. On peut continuer si vous voulez. Et puis, c'est parce que ça va dans le même sens. Alors, il faut bien comprendre ce brave Qohélète. Soit on se dit, il déprime complètement et il a besoin d'aide. On va prier pour lui, hein, voilà. Ou bien, on dit quand même, ok, vrai auteur humain avec toutes ses compétences, hein. La Sainte Écriture, ce n'est pas de l'écriture automatique. Ce sont des personnes qui, avec toute leur l'usage normal de leur raison, de leur voilà, ils ont écrit ça. Aux vrais auteurs humains. Et puis, auteur principal de la Sainte Écriture, l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire que l'Esprit Saint veut nous dire des choses à travers Qohélète, l'Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, l'Esprit Saint? À travers vanité des vanités, tout est vanité. Rien de nouveau sous le soleil, mais enfin, Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles, faudrait savoir. Ah, c'est que si tu n'es pas en Dieu, c'est juste vain ce que tu vis. Si tu es dans le péché, il est temps de te convertir. Te convertir dans tes pensées, te convertir dans ta volonté, te convertir dans tes choix, te convertir dans tes pratiques, dans ta manière d'aimer, dans ta manière de vivre ta vie quotidienne. Si tu fais, si tu vis, si tu penses des choses sans Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, c'est vanité des vanités. Ça, c'est le don de science qui peut souffler ça en nous et nous le montrer avec une grande acuité. Alors peut-être qu'on a fait les choses avec passion, vous voyez. On y a mis du temps, de l'énergie, on était à fond, surtout quand on était ado et des supporters d'une équipe. Alors on avait tous les autocollants de tous les joueurs, on connaissait tout par cœur. Vous voyez. C'est un peu le propre de l'adolescence, là, ça, les passions foisonnent. Ça demande d'être régulé, bien sûr. Mais quand on est adolescent, on absolutise. Quitte à moins bien travailler à l'école, mais si au moins on peut tout suivre des activités de nos idoles, on appelle ça comme ça en plus, vous voyez, les stars. Bon. Et puis un jour, on réalise que tout ce qui est vécu en dehors de Dieu, de sa volonté, vanité des vanités, est loin de nous condamner, loin de nous écraser. Cette acuité divine nous plonge en Dieu et nous fait choisir à nouveau la volonté de Dieu comme vraie nourriture, comme vie, tout simplement. Parce que lorsqu'on expérimente la vanité dans notre vie, ben ça nous garde petits lorsqu'on expérimente sous la motion du Saint-Esprit, pas sous le regard de l'accusateur de nos frères, qui nous condamne, qui nous accuse et qui nous écrase toujours. Non, non, non. Dans le souffle du Saint-Esprit qui est amour et vérité. Là, on lâche les armes. Alors on se dit, ben oui, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai mis de l'énergie, j'ai mis toutes mes énergies dans plein de trucs qui étaient en dehors de ta volonté. Donc vanité des vanités, rien de nouveau. Car ce qui est nouveau est fait dans l'Esprit Saint. Et en effet, l'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. Le péché n'est absolument pas original. Mais ce qui est vécu dans la charité, ce qui est vécu dans l'Esprit Saint, c'est toujours original, c'est toujours nouveau. Voilà l'acuité que donne ce don de science. Alors, bien sûr, il nous donne aussi le sens de l'offense à l'amour. C'est la boue. C'est l'horreur du péché. Non seulement dans notre vie, mais dans nos environnements proches et moins proches, dans l'humanité, dans l'Église, dans l'humanité. La présence du mal, de l'horreur, de la haine, de la violence. Toutes ces choses ténébreuses qui nous font pleurer. C'est pourquoi le don de science a comme fruit la béatitude des pleurs. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. La béatitude des pleurs, ce sont celles que vivent Jésus et Marie. Pourquoi Jésus pleure? Pourquoi Marie pleure? La béatitude des larmes, qu'est-ce que c'est? C'est le décalage entre le trop-plein d'amour que Dieu nous porte. Le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Jésus est dans la force de cet envoi. Il porte avec lui l'amour, le poids de l'amour du Père pour le monde. Et il arrive comme ça dans le monde, chargé des bénédictions du ciel. En face, heureusement, il y a Marie, Joseph, les petits bergers, il y a quelques-uns comme ça. Bon. Mais il faut avouer qu'il y a surtout beaucoup d'indifférence, beaucoup de refus volontaires. Et ça fait craquer. Ça désarçonne énormément, mais pourquoi? Tu n'accueilles pas l'amour dont tu es aimé. Que deviendront les pécheurs? Que deviendront les incroyants, vous savez? Les incroyants, avec cette définition magnifique que donne la Gospa. Les incroyants, ce sont les gens qui n'ont pas fait encore l'expérience de l'amour de Dieu pour eux, celle de la miséricorde. Saint Dominique et d'autres, et nous-mêmes, nous pleurons. Pourquoi, Seigneur? Comment ça se fait que telle personne que nous connaissons, c'est si simple d'ouvrir son cœur à ton amour. Pourquoi cette personne ne le fait pas? Alors ça fait craquer le cœur, ça fait pleurer. Parce qu'on sait que ce serait tellement mieux pour cette personne qu'elle accueille ta miséricorde, plutôt que de s'enfermer dans son orgueil, plutôt que de vouloir s'en sortir tout seul, plutôt que de murmurer jour et nuit. Pourquoi cette personne ne se tourne pas vers toi? Alors pour elle, Seigneur, pour ces personnes qui n'accueillent pas ton amour et ta miséricorde, que ce soit par ignorance, par paresse ou par péché volontaire d'orgueil, eh bien nous voulons en réparation, Seigneur, accueillir cette double part du Saint-Esprit, cette double part d'amour pour ceux et celles qui n'accueillent pas ton amour. En refusant d'enfermer notre frère, notre sœur, dans ce que nous voyons. Car encore une fois, si le don de science nous est donné, c'est pour voir. Avec acuité, à la fois la splendeur de la créature sous le regard de Dieu et à la fois sa misère. Alors bien sûr, quand le Seigneur nous donne de voir, ce n'est pas pour condamner notre frère, ce n'est pas pour l'enfermer dans son péché, dans sa misère. Mais c'est pour susciter en nous un amour nouveau, un amour de compassion, un amour silencieux, un amour gardien, non pas du péché, mais du pécheur, refuge du pécheur. Autrement dit, quand on voit avec acuité la misère de notre frère, sachons, comme dans l'Écriture, jeter un voile pour cacher la nudité du Père, vous savez, qui s'est saoulé et qui était nu. Alors leurs enfants viennent et ils viennent cacher la nudité de leur Père. Au lieu de le réveiller et de l'engueuler, voilà, on cache la nudité. Ça veut dire quoi ? On ne planque pas le péché, mais on garde dans son cœur le pécheur. Parce que en gardant dans notre cœur le pécheur, on permet à celui-ci un jour de se réveiller de sa torpeur et de cheminer vers la miséricorde et d'accéder à la miséricorde. Nos pleurs, frères et sœurs, nos larmes, si nous vivons nos larmes avec Jésus, si nous offrons nos larmes, elles sont co-rédemptrices, comme celles de Marie. Co-rédemptrices, c'est-à-dire qu'elles sont offertes pour la multitude, pour que les pécheurs qui ne reconnaissent pas aujourd'hui l'amour dont ils sont aimés accèdent à cette miséricorde un jour. Que ce soit demain, dans une semaine, dans un mois ou au soir de leur vie. Mais en offrant nos larmes, et combien de larmes Sainte Monique a versées sur Augustin, eh bien nous pouvons être sûrs, certitude, don de science nous affermit dans la certitude que donne la foi. Est-ce que tu crois en la communion des saints? Est-ce que tu crois en cet article du credo, c'est-à-dire est-ce que tu crois que quand tu offres tes larmes au Seigneur pour telle personne, pour sa conversion, le Seigneur t'exauce. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu pleures aujourd'hui, tu seras consolé. Pourquoi ? Parce que tu t'es offert au Seigneur pour cette personne. Il n'y a pas de plus grand amour que de déposer sa vie pour ceux qu'on aime. Et lorsque le Seigneur nous fait expérimenter la misère de nos frères, C'est pour nous appeler à une consécration plus grande. Fais 2000 pas pour celui-ci, s'il te plaît. Il t'en demande 1000. Fais-en 2000. Ah bon? Mais c'est un pécheur! Et il a persécuté les chrétiens, lui, le Saul de Tarse, là, qu'est-ce que tu nous racontes? Ah, si, si, il serait bien de l'accueillir, parce que moi, je fais le Saul de Tarse un saint Paul. Mais celui-là, c'est un mécréant, tu sais ce qu'il a fait, Seigneur, dans sa vie? Eh oui, c'est comme ça. Ça s'appelle être co-rédempteur avec le rédempteur. C'est un scandale pour les juifs. Folie pour les païens. Non, mais donner sa vie pour ses enfants, on comprend, c'est de notre chair, c'est on comprend. Et puis, mais donner sa vie pour des mécréants, ah ben c'est ce que le Christ a fait pour nous. C'est ce que saint Paul nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ a donné sa vie pour nous. Il a vu, lui, Jésus. Dans l'Esprit Saint, il a vu la merveille que nous sommes. Et il a vu la misère. Ah, il l'a vu, la misère. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Père, c'est de moi dont il est écrit dans le rouleau du livre, alors je viens faire ta volonté, ô Père. Ah oui, parce qu'il faut que je descende. Parce que là, ça va pas. Ça va pas que Michel soit comme ça. Ça va pas que Micheline soit comme ça. Ça va pas que Gérard soit comme ça. Non, 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 ça va pas. Alors voici, je viens, ô Père, pour faire ta volonté. Parce qu'il y a trop de volontés rebelles. Toutes, elles sont toutes rebelles, à part celle de l'Immaculée. Mais toutes les volontés humaines ont besoin d'être rectifiées, purgées, purifiées. Remise dans le bon axe de la volonté divine. Ça lui a coûté des pleurs à Jésus. Non pas des pleurs qui se sont... Non pas des pleurs d'une dépression. Encore une fois, la béatitude des pleurs, c'est une béatitude. Comment ça se fait? Une béatitude parce que ça vient d'un trop-plein. Un trop-plein d'amour. Ah, si vous saviez combien je vous aime, dit la gospa, vous pleureriez de joie. Vous pleureriez de joie. Nous, on pleure pas beaucoup de joie, hein? Ah, mais pourtant, on pleure beaucoup. Et pas beaucoup de joie. Quelle conversion, frères et sœurs. Quelle conversion! Alors voilà. Jésus disait à Conchita, je vais vous lire ce qu'il dit pour terminer. L'esprit de science montre la vérité et en elle l'humilité. L'âme qui possède ce don ne peut être orgueilleuse. Lorsque cet ennemi de l'âme s'approche d'elle, le démon d'orgueil, hein, il se brise sur l'humilité éclairée par la vérité. L'âme qui a le bonheur de posséder ce don se connaît elle-même et elle me connaît moi aussi. Elle sait quelle distance infinie me sépare des hommes. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Que me veux-tu? Quoi, toi, moi? Distance infinie entre le Créateur et la créature. Mais c'est un bonheur, parce que cette distance infinie n'est pas un drame. C'est au contraire l'occasion d'une rencontre. Elle sait, c'est Jésus qui parle, elle sait quelle distance infinie me sépare des hommes, et elle mesure la miséricorde et la bonté gratuite par lesquelles je m'abaisse jusqu'à elle. Ce don de science, loin de remplir l'âme de vanité, lui donne l'humilité. la plonge avec délice dans la connaissance de son impuissance, de sa faiblesse et de son néant. Voyez bien, frères et sœurs, que si on est orgueilleux, l'expérience de notre impuissance, de notre faiblesse, de notre néant, ça nous énerve un peu. Bon, ça c'est une marque de l'orgueil, hein, parce qu'on aimerait tellement, nous, orgueilleux que nous sommes, être parfaits, impeccables et tout ça, hein, sauf paf badaboum, c'est pas le cas. Et lorsque nous tombons, pour l'orgueilleux, c'est toujours un drame. Pour celui qui est humble, c'est une occasion de retoucher à quel point sans la miséricorde de Dieu, il n'est rien. C'est une occasion de se jeter à nouveau dans les bras miséricordieux de Jésus. Oui. C'est pourquoi Jésus dit à Conchita, ce don de science, loin de remplir l'âme de vanité, lui donne l'humilité, la plonge avec délice dans la connaissance de son impuissance, de sa faiblesse et de son néant. Voilà ce qu'est la véritable science, celle des saints. La seule qui soit capable de produire des fruits de vertu solides et durables. En général, l'Esprit-Saint communique ce don à l'âme par l'oraison et la contemplation. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.